En France, le travail est une norme. Il permet de nous assurer une place et des droits au sein de la société. Le champ des arts dit appliqué a ses modalités, ses particularités, mais n'échappe pas à cette convention. L'emploi qu'occupent les designers, le milieu dans lequel ils évoluent est important. Cependant, il semble que les formes qu'ils créent soient principalement au centre des discussions et tendent à les définir.
Nous sommes trois designers de formation et ce constat nous a inspiré une idée. Nous avons créé Contreforme, une collection de récits d'expérience qui s'intéresse à l'environnement des designers plutôt qu'à leur production. À chaque épisode, nous allons à la rencontre d'un praticien ou d'une praticienne, plus ou moins confirmé, dans le lieu de son choix. Il ou elle est graphiste, scénographe, designer d'objets ou de mode. Ce moment passé ensemble est l'occasion d'évoquer son cadre et son mode de vie, ses habitudes personnelles de mise au travail ou ses refuges méditatifs.
Il y a quelques années, lorsque j'ai rencontré Alice à l'occasion d'un jury de diplôme, nous avons longuement discuté de nos expériences d'étudiantes, de la manière dont l'école a marqué nos vies, façonné nos caractères et infusé nos carrières. Contrairement à moi, qui suis, je crois, un pur produit des écoles qui m'ont formée, Alice a gardé pendant de longues années un goût amer de son expérience en école d'art. Remerciée à mi-parcours, elle n'a pas terminé sa formation, tout comme son meilleur ami de l'époque avec qui elle a ensuite collaboré pendant près de 10 ans. Elle s'est construite contre et l'a longtemps assumée, voire revendiquée, notamment à travers les formes qu'elle produisait, volontairement en rupture avec l'enseignement qu'elle a reçu. Aujourd'hui, le binôme n'existe plus. Alice a fondé son propre studio et étendu son activité de designer graphique à la direction artistique et la direction de création. En juillet 2021, elle nous a accueillis sur son lieu de travail, qu'elle appelle désormais solennellement bureau, afin de revenir sur cette expérience d'étudiante et sur la manière dont celle-ci a influencé son parcours et son rapport au travail. Bonjour Alice.
Bonjour Manon.
On se retrouve aujourd'hui à Paris, il est 10h30. Est-ce que tu peux nous expliquer où on est et pourquoi on se retrouve ici et à ce moment-là?
Alors on est dans la cour de mon bureau, dans le 18e à Paris. Il fait beau d'ailleurs. Je vous avais donné rendez-vous à 10h initialement parce que c'est mon horaire de début de travail effectif.
Mais du coup, tu as des horaires fixes?
J'aimerais bien. Alors j'essaye de mettre en place un 10h17 et c'est plutôt un 9-20h.
Ouais, ok.
Voilà.
Et tu définis ton espace de travail comme un bureau. Qu'est-ce que ça dit de toi, de ta pratique, de ton métier?
Avant, pareil, pendant 10 ans, j'ai appelé ça l'atelier parce que je suis là depuis 2011. Donc ça fait bientôt 10 ans, ouais. J'ai appelé ça l'atelier et les gens avec qui je travaillais, que ce soit commanditaire, collaborateur ou autre, en fait, s'attendaient à ce que j'ai un choix artiste, j'ai un grand espace où je m'étale, où je fais des choses monumentales, etc. Et il y avait toujours un aspect un peu déceptif, du coup, d'arriver en rendez-vous ici et de me trouver devant mon ordinateur sur à peu près 1 mètre cube. Ouais. C'est juste un réajustement pour bien aussi faire comprendre, je pense, que je fais...
Ouais, c'est une forme aussi de médiation, quelque part.
Tout à fait. Et moi, je ne suis pas forcément à l'aise dans ce terme, hein, d'ailleurs.
Ah ouais?
Ouais, c'est-à-dire que le bureau, pour moi, c'est vraiment le lieu de travail du salariat.
Ouais.
Étant indépendante, il y a un petit court-circuit, mais bon, c'est plus facile pour faire comprendre ce que je fais, quoi.
Oui, ouais. Nous, en fait, on avait vraiment envie de te rencontrer, parce que c'est vrai que dans les autres entretiens qu'on a, il y a toujours ce rapport très chaleureux à l'école. Il y a vraiment ce rapport, l'école qui nous a formés, qu'on aime, qu'on a aimé. Et donc, toi, c'est vrai que quand je t'ai rencontrée, t'as été un peu la première personne à me parler de l'école comme d'un quelque chose qui n'est pas évident, quoi. Donc, on avait envie ouais, que tu parles un peu de ça, quoi.
Alors, j'ai aimé l'école, mais j'ai eu un rapport très conflictuel avec elle. Humainement, j'ai rencontré tous les gens, la base, en fait, est vraiment... Je pensais pas, parce que c'était pas gagné quand on est tous arrivés en première année, de se dire qu'on allait, en fait, rester très liés pendant tout ce temps, en fait.
Parce que toi, t'es arrivé en première année et c'était un cursus de 5 ans ?
Voilà. Okay. Et en fait, moi, il s'est rétréci à 3 ans.
Ok. Et t'avais fait quoi avant ?
Une prépa.
Ok.
Ouais.
Et un bac général.
Ouais, un bac général sans intérêt, en souffrance. Je veux faire du graphisme depuis que j'ai 14 ans. En fait, j'avais des grands classeurs, tu sais, avec des grandes anses comme ça.
Ouais.
Et je découpais dans les magazines des images et je faisais des collections.
Okay.
Malheureusement, ils ont disparu. J'aurais bien aimé les retrouver parce que je pense qu'il y a vraiment... Enfin, c'était mon Tumblr, quoi.
Ouais. Tu vois. C'est vrai que, tu sais, quand tu es jeune, que tu aimes dessiner ou faire des choses comme ça, en général, on te dit « Non, fais pas ça, c'est pas un métier qui rapporte de l'argent. » Comment, du coup, t'arrives à te dire « Ah, je vais faire une prépa. » T'as eu quelqu'un qui t'a accompagné et qui t'a amené vers ça, du coup ?
J'ai des parents qui m'ont toujours écoutée là-dedans. Enfin, ils sont vraiment accompagnants et pas dans la direction, justement. Enfin, ils sont avec et pas contre, enfin, dans leur prisme, quoi. Du coup, je prenais des cours de dessin avec une ancienne de Penningen. J'ai eu deux personnes déterminantes, un prof en quatrième, qui avait beaucoup aimé un dessin que j'avais fait complètement psychédélique. Bref, du coup, il avait suggéré à mes parents que je fasse une école d'art. Donc ça, c'était le premier truc. Et cette prof de dessin qui, en fait, m'avait dit, si tu veux des bonnes écoles, en fait, il faut faire une prépa. Et qui m'a complètement accompagnée là-dedans. La prépa, moi, ça me faisait un peu rigoler de faire une prépa pour être dans une école d'art. Puis en fait, j'ai compris que c'était un peu sérieux, en fait. Mais tu vois, toujours pareil quand tu sais pas.
Ouais.
Mais l'école, c'était génial. Mais j'étais très contente d'en partir.
Et t'étais dans quel état d'esprit quand t'es arrivée en première année ? Et quand t'es repartie en troisième après ?
Alors, quand je suis arrivée, j'étais frustrée parce que j'avais pas eu l'école que je voulais.
Okay.
En gros, je suis allée dans... J'ai passé plusieurs concours, j'ai pratiquement tout eu. J'avais une option à l'étranger, une à Paris et une en région. J'ai pris en région, sans savoir pourquoi, alors que je fantasmais d'aller à l'étranger. Du coup, je suis arrivée frustrée, triste, malheureuse.
De ton propre choix.
Voilà, tout à fait. Okay. En me disant pourquoi, finalement. Non, mais après, j'ai rencontré des gens fantastiques et je pense que c'est ça qui a fait mon école. Par contre, mes tuteurs et mes enseignants, c'est pas ça que j'ai gardé de l'école, en fait. J'ai l'impression de pas avoir eu d'enseignement. Qu'en fait, mais c'est là que c'est intéressant, que c'était plus un rapport assez autonome à l'école, en fait. Il y avait une structure, des humains, et les profs, en fait, je m'en rappelle assez peu, sauf ceux avec qui c'était vraiment compliqué. Aussi, parce que j'allais pas à tous les cours, je crois que ça m'intéressait pas trop, finalement. Donc tout ça est très logique, enfin que finalement...
Comment ça se fait que ça t'intéressait pas ? C'était quoi ? C'était les enseignements ? Est-ce que ça se situait en fait au niveau du travail, au niveau des humains, justement ?
Un peu des deux. Je pense que surtout c'était très déceptif de sortir du lycée, avoir fait une prépa vraiment... aussi, moi, c'était une année vraiment de découverte où j'étais enfin dans quelque chose de stimulant, quoi. Même s'il y avait plein de choses à redire avec du recul, mais c'était vraiment, vraiment super intéressant pour moi. Par contre, à l'école, j'ai retrouvé un enseignement comme au lycée, c'est-à-dire très scolaire, où il faut rendre des devoirs, il faut être assis en classe pendant 4 heures, écouter, enfin...
Parce que tu avais des matières donc artistiques, enfin graphiques, et tu avais aussi anglais, français...
La première année, en fait, c'est une année très générale, donc tu fais à la fois du dessin nu, tu as des cours théoriques de...
L'histoire de l'art.
Ouais, l'histoire du design, ouais. Et tout ça, en fait, les cours intéressants, même de couleurs... C'était des personnalités, en fait. Et quand il y avait des cours avec des gens qui avaient moins de personnalité ou moins d'engagement aussi, ça redevenait quelque chose de très scolaire.
Ouais.
Et malheureusement, tu te spécialises au bout de la deuxième, puis vraiment en troisième année. Et malheureusement, dans cette section-là, il n'y avait pas vraiment de personnalité intéressante. D'ailleurs, il n'y avait pas de femmes à cette époque, je suis en train de me dire. Bon, ça, c'est encore un autre sujet. Mais
on peut l'avoir de si tu veux.
Ouais. Mais je crois qu'ils se sont un peu renouvelés. Mais c'est vrai que c'était assez âgé, assez homme, assez appliqué, en fait. Et c'est vrai que faire des arts appliqués dans une école de beaux-arts, en fait, c'est intéressant justement parce qu'il y a quelque chose qui se passe et qui est plus... comment dire, plus libre ou plus alternatif ou aux arts appliqués. Sinon, il fallait juste faire une école d'art appliqué. Donc ça m'a un peu...
Parce que toi, du coup, t'étais dans une école d'art appliqué.
J'étais dans une section d'art appliqué dans une école de beaux-arts.
Voilà, ok.
Ce qui est super intéressant comme format.
Ouais.
Mais après, c'était mon ressenti là-bas. Et avec du recul, je me dis, en fait, c'est ça une école aussi. C'est-à-dire qu'une école, c'est juste donner un repère pour ensuite être te positionner, en fait. Enfin, en tout cas, dans mon histoire, c'est pas forcément un accompagnement de projet ou très technique, précis, voilà. Je me suis formée plus tard, en fait, techniquement et même avec un peu plus des mentors artistiques. Ouais. Par contre, c'était un cadre et un groupe de travail, un premier groupe de travail un peu large.
Et le fait qu'il n'y ait pas d'enseignante femme, enfin ouais, d'enseignante, ça t'a manqué ?
En première année, il y en avait une, mais elle était misogyne. Donc, c'était les femmes misogynes. Ça, c'est encore un autre sujet. Hyper dur. Elle en a traumatisé quelques-unes, d'ailleurs, bon, qui vont très bien maintenant. Mais c'était un peu compliqué. Après, dans la section, ouais, il n'y avait que des hommes. Je pense qu'avec du recul, ouais, ça aurait été super d'avoir aussi des exemples, même juste des exemples de designers femmes. Et puis, plus divers, quoi. Enfin, juste là, on n'avait que
des hommes âgés.
Quinca, chauve, blanc.
Ouais.
Pas de problème, mais pas que ça, quoi.
Et donc, eux, ils étaient praticiens aussi à côté.
Alors,
de l'école.
Oui, la plupart. Et se disait praticien. Et en fait, on n'a jamais réussi à avoir aucune image de son travail.
Okay.
Ce qui était un peu étonnant et qui nous a posé beaucoup de questions à l'époque aussi. C'est-à-dire, tu demandes aux étudiants d'être à nu et de te montrer des travaux en cours, puisqu'en fait, étudiant, tu n'es que en cours tout le temps. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui ne te montre pas ce qu'il fait. Il y a un rapport de malhonnêteté, un peu, ouais, justement, de pouvoir. Je trouve que c'était un peu écrasant, comme ça.
Ouais.
Mais je pense que ce n'était pas bien ce qu'il faisait.
Mais du coup, tu disais que donc, toi, tu rentres en première année, tu es censée faire tes 50
ouais,
cursus, et en fait, tu arrêtes à la troisième. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Est-ce
que tu as eu un diplôme aussi à la troisième année ?
Oui, j'ai eu mon diplôme. Okay. En fait, pareil, je pense qu'avec un peu de recul, en fait, en effet, ils m'ont quand même dit des choses qui étaient pertinentes. En fait, je manquais un peu de rapport à la réalité. Et ma dernière année, avant de valider, donc, diplôme de troisième année et ou passage en quatrième, en fait, il m'avait dit qu'il fallait que j'aille faire une école de beaux-arts, ce qui m'avait mis en rogne totale parce que...
Tu voulais être designer.
Bah oui, je comprenais pas, j'ai pas du tout envie d'être artiste. Et que je trouvais même assez intriguant, où justement dans une école de beaux-arts, où on fait de l'art appliqué, on doit pouvoir normalement faire quelque chose de ça, quoi. C'est pas l'un ou l'autre. Ça m'avait beaucoup questionnée, en fait. Et puis bien sûr, j'étais pas accompagnée, c'était va aux beaux-arts, quoi. Enfin,
ouais,
dégage, quoi.
Et ils t'ont pas pris en quatrième année graphisme,
non,
quoi.
Mais ils m'ont quand même proposé, en fait, mon diplôme s'est bien passé. Il a duré très très longtemps. Et en fait, les jurés ont, je pense, plus que mon travail, vu un potentiel. Et ils ont voulu m'accompagner là-dedans. Donc en fait, ils m'ont proposé, après coup, enfin pendant le... Je sais pas, quand on délivre ton diplôme, enfin à la fin du jury. Ouais, délibération. Ils m'ont proposé, en fait, que j'aille faire un an de stage ailleurs et que je revienne ensuite à l'école.
Okay.
Ce qui était un super plan, en fait.
Bah ouais.
Génial, quoi.
Ce qui se fait de plus en plus, d'ailleurs, dans les écoles de beaux-arts, du coup.
Et puis, comme ça, tu gagnes un peu de maturité, un rapport à la réalité qui, j'avoue, avec du recul, j'étais quand même vraiment un peu loin et tout. Mais en même temps, tu vois, j'avais enchaîné lycée, prépa et 2 ans d'école dans une bulle et où on ne te permet pas non plus de faire trop de stages parce qu'à l'époque, fallait pas trop faire de stages. Enfin, bref. Et en fait, c'était super. Du coup, j'ai gardé mon statut étudiant, donc j'ai gardé mes bourses. Je suis allée faire un stage à l'étranger, donc j'avais aussi des bourses à l'étranger. Donc, c'était plutôt confortable. Donc, c'était pas inquiétant d'être loin parce qu'il y avait quand même un peu de sous. Mais malheureusement, après un an dans la vraie vie, dans une capitale européenne fantastique, j'avais pas du tout envie de retourner à l'école. Voilà. Je me suis dit que finalement, j'avais... Parce que c'était pas si évident de faire ce choix-là quand même. Mais que j'avais peut-être fait le bon choix parce que quelques années plus tard, donc mes anciens camarades de classe ont passé leur diplôme de 5e année. Et j'avais des amis qui me disaient, mais ils ont tous l'air déprimés, ils sont tous malheureux. Enfin, il n'y en a aucun qui est content. La moitié sont partis en claquant la porte parce que... Donc je me dis que ce n'était pas que moi, en fait. Il y avait peut-être aussi un contexte un peu spécifique dans cette promo avec ce corps enseignant à cette époque-là, en fait. Et d'ailleurs, juste après... Il y a des enseignants de cette école qui sont partis monter d'autres écoles. C'était
le contexte n'était peut-être pas si évident déjà.
Tout à fait.
Et toi, qu'est-ce que ça a changé du coup de ne pas finir ce cursus ? Parce que c'est vrai que En France, il y a quand même cette idée du diplôme qui, j'ai l'impression, est très formelle par rapport à d'autres pays.
Ouais.
Tu vois, je pense notamment à la Hollande, etc., où tout se finit autour d'une expo, une grosse fête, il y a plein de gens qui sont invités. Nous, on est en petit comité avec un jury, et puis voilà. Et donc, ouais, qu'est-ce que ça a changé, en fait, de ne pas aller jusqu'au bout de...
Je pense que ça a d'abord fait un gros complexe et une énorme frustration.
Okay.
Et aussi, j'ai pas écrit mon mémoire. Et ça, je pense que c'est au-delà du complexe. Je pense que c'est un vrai manque, en fait. Enfin, maintenant, ça va. Mais pendant quelques années, ce temps de concentration sur l'écriture du mémoire, c'est-à-dire de prendre l'habitude d'écrire des projets, de se poser les questions, de faire de la recherche, de référencer son travail. Enfin, tout ce travail de... conception, en fait, il est vraiment fondamental dans l'indépendance, je pense, quand on veut être auteur. Ça m'a vraiment...
manqué.
Ouais, ça m'a manqué, et je pense que j'ai perdu un peu de temps, du coup, à avoir la confiance pour faire ce type de projet.
Et tu parles de frustration, mais elle se situe à quel niveau, ta frustration ?
À ce moment-là, j'avais l'impression d'avoir raté et de pas... Enfin, d'être lâchée trop tôt, c'est-à-dire que... En fait, j'ai fait que 6 mois de graphisme. Un an et demi. Pur et dur à l'école.
Donc, okay, parce qu'avant, c'était généraliste.
Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais, quoi ?
Mais en même temps, c'est ton choix aussi de parvenir, puisque tu fais ton année de stage, et
voilà.
En fait, tu n'as pas envie de revenir.
Non, parce qu'en fait, en un an de stage, j'ai appris plus qu'en... Enfin, je pensais à ce moment-là que j'avais appris plus qu'en 3 ans d'école. Mais en fait, j'ai juste pas appris la même chose.
Ouais.
C'est-à-dire... Ne serait-ce que la nomenclature de tes fichiers, en fait.
Ouais.
Enfin, ça, c'est un sujet de conférence aussi. C'est des choses très pratiques, enfin, très pragmatiques, très concrètes, mais en fait, ça fait complètement partie d'une pratique. Comment tu nommes tes fichiers, faire des rendez-vous, pas oublier d'aller voir des expositions. Enfin, même sans parler de production pure et dure, quoi.
Et est-ce que pour toi, du coup, l'école est trop déconnectée ?
À mon époque, dans ce contexte, oui. C'était très fermé et très l'école sur elle-même. Alors, il y avait plein de choses très positives aussi dans cette école, mais pas très ouverte sur le monde et pas très flexible sur le... C'est-à-dire qu'à la fois, on forme des indépendants, mais en même temps, on ne veut pas qu'ils se...
Soient trop indépendants.
Ouais, c'est ça. Surtout pas au sein de l'école, c'est trop compliqué, quoi. Et d'ailleurs, je sais que pas mal de gens comme moi qui ont été soit virés, soit les étudiants sont partis parce qu'il y a eu un conflit comme ça. Ben en fait, c'est beaucoup des gens qui sont très indépendants, très auteurs, qui ont trouvé leur économie et pour qui ça marche a priori plutôt pas mal. On est un grand club, en fait. Et ce qui pose aussi la question, est-ce que finalement, pédagogiquement, et on y revient à ce que tu disais... Dans un climat violent comme ça, quand t'es étudiant et que du coup il y a une rupture, est-ce que tu te grandis contre et c'est ça qui fait que tu te mets en place, quoi ? Moi je pense pas, mais c'est.
Toi tu penses pas avoir grandi contre ?
Si, si, mais je pense pas que ce soit le bon moyen.
Ah oui ?
Je pense qu'il faut préciser contre quoi, en fait. Et que moi je pense que j'étais juste contre mes profs, mais j'étais pas vraiment contre des idées profondes dans le graphisme, par exemple.
Est-ce qu'être contre tes profs, ça t'a fait aussi être contre ce qu'ils représentaient ?
Je pense qu'à l'époque, oui, tout à fait. C'était même quand j'ai commencé à bosser en collectif, parce que cette personne avait à peu près le même genre d'histoire dans la même...
Ton partenaire de collectif.
Ouais, c'est ça. Dans la même école. En fait, on s'était dit, on va justement pas être comme tous, en fait. Enfin, on va juste faire ce qu'on a envie. Et puis, même si... On les rend pas très contents, en fait, on sera très contents. Donc c'était quand même une réaction d'enfant, enfin un peu vexé, tu vois. C'est vrai que ça a donné, en quittant la dynamique d'être contre, parce qu'en fait, au bout d'un moment, déjà tu t'essouffles et puis, enfin, je sais pas, tu grandis, t'as envie d'autre chose. En fait, il y a quand même une envie d'être, en tout cas, en accord avec soi, c'est-à-dire de pas vouloir forcément être là où il faut. Donc là où il faut de notre formation, c'est être dans ce festival de design graphique à Chaumont, c'est d'être passé par tout un tas d'institutions publiques comme une forme de reconnaissance et
c'est un graphisme
de validation.
Culturel.
Voilà, mais c'est notre formation, tu vois. Donc, et en fait, en faisant pas ça, ben, bizarrement, je m'y retrouve quand même, mais pas que. Je sais pas quelle conclusion en tirer, en fait, si... Mais l'histoire fait qu'en étant contre, en fait, ça m'a peut-être juste permis de me positionner dans ce que je voulais. Et puis finalement, je ne suis pas vraiment contre, je suis aussi complètement avec. Mmh. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, c'est le contre, il n'est peut-être pas aussi radical que ce que je pensais à une époque où je croyais que vraiment c'était incroyable et tout ça. Mais en fait, je suis dedans quand même.
Est-ce que le fait de faire tel ou tel choix de votre, dans votre collectif, c'était guidé par le fait de se venger ou de montrer que... ou de,
Oui.
Ouais. Au début, c'était ça.
Pendant longtemps, jusqu'à ce que... En fait, même, je me rappelle, il y a des projets qu'on faisait où il y a des images qu'on créait qui étaient tout à fait dedans, je ne sais pas comment dire, avec, on va dire, et d'autres qui étaient plus bizarres et qui n'étaient pas forcément mieux. Mais on prenait toujours celle qui, on se disait qu'il va faire un peu serrer des dents, voilà. Et je ne sais pas si on a vraiment provoqué ça, pour être très honnête, mais nous, on était persuadés qu'on avait un grand rôle de vengeur masqué comme ça, mais en fait, on se parlait à nous-mêmes. Mais bref, ça nous a quand même permis de faire des trucs. Et c'est peut-être là qu'il y a eu une différence aussi à un moment dans notre collectif, c'est que moi, je me suis rendu compte que c'était qu'une manière de... C'était comme si on avait trouvé un petit... un procédé qui nous arrangeait. De se dire que non, on n'est pas comme les autres, mais qu'en fait, on était tout à fait dans notre génération de gens dépendants, identifiés, etc. Alors que peut-être il y avait un autre courant de pensée dans ce même studio qui pensait qu'on était très marginaux. Ouais. Et c'est là qu'il y a, je pense, un...
Entre vous deux, un décalage voilà, de vision aussi.
Ouais. Et aussi de comment on intègre notre histoire, justement, et notre construction étudiante, etc., de... Enfin, finalement, ça reste une formation, mais peut-être qu'elle est très performante comme ça, tu vois, je sais pas trop.
Mais ce que j'avais trouvé intéressant aussi quand on s'est rencontrés, c'est que tu parles de vraiment ne pas vouloir être dans une niche. Et en fait, cette niche qui est quand même un peu représentée par ces personnes que tu as eues en, en tant qu'enseignant. Et c'est toujours quelque chose qui te... Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette idée de niche même, tu vois?
Ouais. Ben, moi, j'en ai trouvé une autre, justement. Enfin, j'en ai trouvé une autre. Je ne suis pas toute seule, mais elle est plus... En fait, elle est vraiment liée à mon histoire de ce que je suis partie à l'étranger, puis je suis restée un peu là-bas, en Angleterre. Culturellement, il y a quelque chose de très, très spécifique là-bas aussi... qui m'a, je pense, au-delà de me marquer, m'a vraiment... Enfin, je suis teintée, en fait. J'ai grandi... Enfin, un moment où j'étais encore éponge quand t'es étudiant. Je suis arrivée comme ça et j'ai... Voilà, je me suis construite là-dedans. Cette influence, en fait, et aussi parce que j'étais dans des milieux plus de mode que de design culturel, en fait, qui, pour moi, représente plus le réseau que je connais en France. Du coup, la niche que, moi, je convoite, c'est plutôt celle de l'art contemporain et la mode, dans lequel le design graphique fait un lien absolument cohérent avec, je pense, que je développe. Donc c'est pas, comment... J'ai un petit orteil avec la niche des anciens profs, parce que c'est comme ça, puis que c'est... Enfin, je suis très contente, mais en fait, je me déploie un tout petit peu à côté, quand même. Mais encore une fois, je suis pas toute seule, il y a plein de gens là-dedans, parce qu'il y a aussi beaucoup de possibilités, parce qu'il y a de la mode. Mais en même temps, c'est récupéré par l'art contemporain. Enfin, bref, tout se répond, quoi. Et puis, c'est plus jeune et il y a plus de femmes.
Ouais. Depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de pédagogie et d'enseignement et d'un enseignement passé. Et tu dis beaucoup, c'était comme ça avant. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, t'enseignes ?
J'enseigne pas vraiment. Par contre, dans le sens où je suis pas prof, par exemple.
Ouais, t'as pas un poste fixe.
Non, qui m'intéresse pas trop pour l'instant et qui est une question qui revient souvent à nos âges. Comment on fait pour garder notre indépendance? En gros, est-ce qu'on est prof la moitié du temps et que du coup, ça nous permet de faire nos projets? Est-ce qu'on fait du commercial? Enfin, on en revient à cette question. Enfin, je dis ça parce que j'en ai beaucoup parlé récemment avec pas mal de gens de ma génération, quoi. C'est moitié-moitié à peu près. Bref. Et en tout cas, non, je ne suis pas prof. Par contre, j'ai fait énormément de workshops et j'ai été proche d'une école à Paris d'art appliqué, justement, mais qui a notamment une section qui représente peut-être moi ce que... Enfin, qui est une réponse à l'enseignement que j'aurais aimé avoir, c'est-à-dire très accompagnant, peut-être un peu très, très accompagnant, mais en tout cas, qui respecte les personnalités de chacun Et dans un rapport où, certes, dans un groupe de travail, ils sont une douzaine, il y en a un qui va être plutôt un profil styliste, un autre artiste, un DA, un graphiste, un vidéaste, etc. Mais on leur apprend à travailler en groupe et séparément. On les respecte dans leur personnalité. Les cours, il y a des choses très appliquées, mais il y a aussi beaucoup de cours où, en fait, c'est des workshops, de la recherche. Enfin, c'est vraiment hyper bien, quoi. Et du coup, on a été liés à cette section et moi, pas mal vers la fin. Enfin, la fin, parce qu'en fait, on a fait 5 ans de workshop avec mon ancien associé. Et la dernière année, en fait, il y avait un format un peu plus spécial qui était vraiment très intéressant où je t'avais invité justement. C'était une carte blanche, en fait, en tant qu'intervenant extérieur. En fait, tu es parrain ou marraine. Donc, tu es censé, ce qu'on te dit en brief, c'est comme le berceau, arriver avec ta petite baguette magique à la naissance de l'enfant et dire, toi, je te donne un don, un petit bonus dans la vie. Donc voilà, déjà pédagogiquement, je trouve que c'est génial comme brief. D'autres s'en étaient emparés pour faire du suivi de projet. Certains avaient fait des workshops très intensifs. Nous, justement, on avait proposé en fait de désacraliser l'exercice du diplôme qui est quand même très impressionnant en ramenant des pros, donc d'un âge très jeune, très proche d'eux ou beaucoup plus âgés. Avec des profils très différents et de faire l'exercice du diplôme en miroir avec eux. C'est-à-dire qu'ils avaient 20 minutes pour présenter leur travail et 10 minutes de questions. Et évidemment, c'est parti un peu dans tous les sens, mais l'enseignement dans ce sens-là m'intéresse, en fait. C'est-à-dire que je ne crois pas que j'ai des choses à apprendre en graphisme, enfin en design graphique. Par contre, je pense qu'en termes de créer des groupes de travail, se poser des questions ensemble sur notre pratique, même passer du temps avec des étudiants et se perdre un peu, je trouve que c'est plus formateur que... Mais parce que peut-être c'est comme ça que moi j'ai grandi, en fait, finalement.
Tu soulèves la question de désacralisation. Je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est vrai que quand tu es à l'école, tu es, comme tu l'as dit, dans une bulle et tu sacralises beaucoup de choses. Tu sacralises des pratiques, tu sacralises des personnes. J'ai l'impression que ça guide beaucoup aussi ton orientation, ton travail.
De désacraliser ?
Ouais, désacraliser ouais. La figure du graphiste indépendant ouais. Qui travaille dans un secteur culturel.
Mais parce que, puisqu'on en a parlé un peu plus tôt, j'ai l'impression que c'est peut-être aussi tu vois, je suis plus contre, mais c'est aussi un système de défense, quoi. Je pense que moi, le fait, pour répondre à ta question un peu plus tôt, de ne pas avoir fini l'école, je pense que finalement, ça a fait de moi quelqu'un qui avait peur, en fait, parce que l'école te donne un cadre rassurant, voilà, accompagnant avec des repères. J'ai pas trop eu ça. Après avoir été contre, ce qui reste, c'est que j'ai quand même toujours un peu peur. Enfin...
Et tu crois que tu aurais eu moins peur si tu avais terminé ton diplôme ?
Ben, je ne sais pas.
Est-ce que tes amis qui ont terminé leur diplôme ont moins peur, tu crois ?
En tout cas, ils ont un rapport moins cinglé au travail, parce que je suis quand même très addict à mon travail. Donc, c'est que quelque part, j'ai quelque chose à prouver au monde, même si je sais que tout le monde s'en fout, tu vois. Je m'en rends compte. Je lutte un peu là, depuis quelques années, mais c'est très difficile quand on est accro, parce que c'est à la fois... c'est pernicieux, quoi. C'est à la fois... t'es productif, tu fais plein de choses, donc c'est très intéressant pour toi. Personne s'inquiète parce que tu produis plein de choses. Tu gagnes de l'argent, etc. Enfin, en gros, t'as trouvé une activité qui fonctionne. Mais de l'autre côté, en fait, tu te tues à la tâche, pour quoi faire ? Enfin, tu vois, au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui arrive.
Et est-ce que tu as l'impression de prouver quelque chose quand tu travailles ? Est-ce que c'est un espace où tu te sens en confiance ? Est-ce que c'est...
Ouais. Non, je me sens en confiance dans mon travail, mais je pense que mon rapport... Enfin, il y a quand même toujours une légitimité, malgré tout. Je pense qu'en général, de toute façon, à chaque étape de ta pratique, tu cherches une légitimité. Enfin, arriver quelque part te fait que vouloir aller encore ailleurs. Peut-être que ça se calme à un moment aussi. Enfin, moi, je le sens que peut-être maintenant, je commence à être à peu près là où j'ai envie. Mais je pense que c'est un rapport pas très sain au travail quand même. Enfin, c'est obsessionnel, quoi. Moi, quand j'ouvre les yeux le matin, je me mets déjà à travailler. Il n'y a plus rien qui existe. Voilà. Et quand je me couche, cette nuit, j'arrivais pas trop à dormir, du coup j'ai travaillé dans ma tête. Enfin, c'est pas très sain, je pense.
Et est-ce que tu crois que c'est des paramètres qui sont liés au fait que tu sois indépendante ? Ou est-ce que tu crois que c'est des paramètres qui sont liés à ton caractère ?
Bah, je pense que l'indépendance est liée à mon caractère. Peut-être que je réponds à la question comme ça. Mais peut-être pour l'illustrer, je crois que moi, j'avais pas très bien compris ce que ça pouvait impliquer d'être indépendante. Par contre, quand j'ai fait ma première expérience de stage qui a duré un an, donc j'ai assisté à un DA, en fait, c'était super intéressant, très stimulant et assez fondamental, en plus, à ce moment-là, pour moi, de continuer à apprendre de près, etc. Par contre, c'était insupportable, l'idée de donner mon temps de vie à quelqu'un dans son projet à lui, en fait. Donc, je pense que c'est très clair. Enfin, tu vois, je peux pas...
Tu pourrais pas travailler
non,
pour quelqu'un.
C'est ça. Mais bon, après, je fais que des projets pour des gens, donc c'est là que c'est un peu ambigu aussi, mais...
Mais peut-être que ça se déploie plus, au moins dans ton esprit, dans une forme de collaboration.
Oui, dans mon esprit. De...
Non, mais voilà, après, on sait jamais vraiment.
C'est ça, on crée notre langage. Ouais.
Mais c'est aussi, tu crées tes modalités de travail.
Oui.
Donc, soit tu as envie de discuter, soit tu as envie de faire pour, soit tu. Enfin,
voilà, ouais.
Il y a aussi ça, quoi. Parce qu'être auteur, autrice, c'est être parent de quelque chose. Mmh. Et il y a vraiment cette question de l'ego. Est-ce que toi. Je sais pas, tu l'as senti, il y avait peut-être un peu de ça, non, de pas finir l'école et tout.
Ah bah oui, mais moi j'ai un gros problème d'ego, je pense. Enfin, qui se, non mais qui se, comment ? Je pense qu'il est au bon endroit, mais qu'il a été un peu secoué il y a très longtemps, donc maintenant ça va mieux. Clairement, quand je fais des journées de 12 heures pendant une semaine, il s'agit aussi de ça, c'est-à-dire. Il manque la petite main de... Enfin, pendant longtemps, je crois que j'avais juste envie que mes profs me tapent sur l'épaule et me disent « c'est bien ma petite, tu vois ?» Ce que t'as à ton diplôme, possiblement. Mais bon. Mais oui, je pense que tout ça, c'est des problèmes d'ego. Mais peut-être que l'indépendance, c'est aussi une forme d'ego. Parce que, rationnellement, moi, j'ai eu beaucoup ces discussions avec des stagiaires qui passent ici. Aujourd'hui, en fait, l'indépendance, c'est vraiment super quand c'est nécessaire, quand c'est nécessité. Mais sinon... Pareil, on parle pas du tout de bosser dans un être salarié en tout cas ou employé dans un groupe de travail où on s'en sent super bien, où il y a moins d'inquiétudes, où il y a d'autres avantages, où il y a du temps pour la vie en dehors du travail aussi, parce que ça on n'en parle pas assez. Enfin, tu vois, je pense pas que l'indépendance soit la seule manière de se développer et intellectuellement et dans la vie, dans sa vie personnelle. Au contraire, en fait.
Aujourd'hui, t'en retiens quoi, à 10 ans après, de ce diplôme de fin d'études, cinquième année non passée, de ce choix de ne pas revenir à l'école ?
Je suis ravie. Je crois que c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Par contre, j'aurais aimé dire à cette personne que j'étais il y a 10 ans, t'inquiète pas, relax. Voilà. Mais comme je suis toujours pas relax, tu vois,
tu peux pas. Du
je
coup.
Peux pas dire ça. Non, en fait, avec du recul, ça m'a aussi donné une flexibilité de ne pas penser que tout était tracé. Enfin, en fait, c'était ma première rupture, je pense, puis assez tardive, finalement. Enfin, j'étais déjà en école supérieure et je n'avais pas eu de rupture dans mon parcours d'écolière, puis étudiante, tu vois. Donc, en fait, c'est juste c'est un peu une réaction d'enfant en étant jeune adulte, parce que pour la première fois, on t'a dit non, en fait. Donc, bon, en fait, c'est pas très grave. Je pense que ça rend plus flexible et que quand tu vois, en faisant des petites banalités de comptoir, quand même, que quand ça se passe pas comme prévu, c'est peut-être bon signe aussi. Du coup, t'es donc en réaction constamment pour évoluer. Je pense que ça rend plus flexible.
Ouais. Okay. Est-ce qu'on parle du fait que t'as été invité en jury par un de ses enseignants,
oui.
Ou pas ?
Oui.
Enfin, invité à faire partie du jury,
voilà.
Des jeunes diplômés.
De sa section.
De sa section.
De sa nouvelle école.
Et ça t'a fait quoi ? Honnêtement.
Ben, j'ai eu ma petite tape de mon prof qui m'a tapé l'épaule et qui m'a dit « c'est bien ma petite ».
Donc la boucle est bouclée.
Oui,
la
tout à fait. Est bouclée, tout à fait.
Bon, ben, merci Alice.
Merci Manon.
L'équipe de Contreforme adresse un grand merci à Alice pour avoir accepté notre invitation et nous avoir accueillis si chaleureusement. À Clara Borgen pour le montage de l'épisode et sa réjouissante implication dans ce projet. À Du Radio pour l'enregistrement de l'introduction. Ainsi qu'à Kevin Gotkowski pour la musique du podcast. À bientôt pour la suite de Contreforme. Contreforme est un podcast créé par Manon Bruet, Niven Chekoun et Serena Evely.